Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre. Nous continuons notre étude de cette lettre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Nous sommes arrivés au chapitre 2, au début du chapitre 2. Alors, à partir de dimanche prochain, normalement, hein, nous allons avoir la récitation de tout de 1 Pierre en entier. Donc, je ne sais pas si chaque dimanche un chapitre. Hein. Donc, comme ça, on ira jusqu'à la fin du mois de juillet. Je crois qu'on aura fait les 5 chapitres. Et faut regarder au fond. Je ne sais pas si toutes les places sont prises, mais s'il reste encore un petit créneau que vous avez, si vers la fin vous avez encore le temps d'apprendre, donc je vous invite à le faire si vous pouvez. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 4. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, nous allons nous concentrer plutôt sur les versets 4 au verset 8. Je vous rappelle juste que l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens, chapitre 1, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Donc à des chrétiens qui sont étrangers, dispersés. Et quand on lit toute la lettre, on voit qu'ils sont persécutés. Hein. Il y a beaucoup de difficultés, de souffrances que l'on peut voir. Chapitre 2, verset 12, par exemple, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, hein, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Au verset 18 aussi de ce chapitre, il parle aux serviteurs, il demande d'être soumis à leurs maîtres qui sont parfois d'un caractère difficile. Si vous regardez le chapitre 4 et au verset 13, il dit, chapitre 4, verset 13, il dit, « Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffrez, si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Et encore à d'autres endroits, hein, il parle encore de cette souffrance. Il dit même que c'est une grâce de souffrir quand on souffre pour le bien en faisant la volonté de Dieu. Donc il écrit à des chrétiens qui sont souffrants, qui sont persécutés pour leur foi. Peut-être à des chrétiens, quand on est souvent persécuté, on peut être tenté, hein, d'abandonner, de s'éloigner, de baisser les bras. Donc c'est une lettre aussi qui les encourage. Et on avait vu dans les 12 premiers versets que l'apôtre Pierre encourage les chrétiens en leur rappelant d'abord qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit pour qu'ils deviennent obéissants à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et qu'ils participent, à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et puis tout jusqu'au verset 12, il va leur montrer la beauté, la valeur de l'Évangile. C'est ce qu'il va faire. Et puis à partir du chapitre 13, du verset 13, du chapitre 1, eh bien là commence une série d'exhortations dans laquelle il montre quelle réponse on doit apporter à ce salut, à cet Évangile. Et donc il y a l'appel à la sainteté, l'appel à vivre dans la crainte, dans la pureté. Verset 22, il y avait l'appel à l'amour fraternel, ce que nous avons vu il n'y a pas très longtemps. Et puis au verset 1 du chapitre 2, eh bien il y a verset 1, 2 et 3, l'appel à venir à aspirer à la parole de Dieu, à croître en désirant profondément la parole de Dieu. Là, du verset 4 au verset 8, ça n'est pas tant une exhortation que l'apôtre Pierre donne, même si on voit approchez-vous ou édifiez-vous. C'est plus une description, on pourrait dire, qu'il donne de l'Église, en fait, du corps de Christ, du peuple de Dieu. On peut supposer que les croyants qui souffrent sont tentés, je le disais tout à l'heure, de s'éloigner. Et donc, il va leur dire ce qui se passe quand ils s'approchent de Dieu, de Christ. Au contraire, ils ne doivent pas s'en éloigner, ils doivent plutôt s'en rapprocher. Et le sens ici, c'est pas « approchez-vous de manière impérative », mais c'est « vous approchant de Christ, lui qui est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, eh bien vous êtes vous-même des pierres vivantes qui êtes édifiées pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » C'est un peu dans cette manière-là que la phrase est conçue. Alors quel est le point, on pourrait dire, principal de l'apôtre Pierre dans cette section que nous avons lue, le verset 4 jusqu'au verset 10? Je crois qu'il se trouve au verset 6, quand il dit « Celui qui croit en elle ne sera point confus ». Et on peut penser à tous ces chrétiens qui sont dans la souffrance et puis qui se disent « Mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que ça vaut bien la peine ? On souffre tellement, est-ce que ça vaut la peine de continuer à suivre le Seigneur, à suivre Christ, etc. » Peut-être qu'ils sont dans la confusion, il y a tellement de gens qui sont contre, qui semblent être bien, qui semblent être heureux, eux, ils croient en Christ et ils souffrent, et c'est un peu la confusion, et Pierre dit ici, en citant bien sûr l'Ancien Testament, eh bien que celui qui croit en Christ, celui qui croit en elle, dans la pierre, il ne sera point confus, celui qui croit en Christ ne sera point confus. Alors, Pierre semble dire, certes, il y a des difficultés, certes, il y a du rejet, certes, il y a de la souffrance, mais voilà ce que l'Écriture dit de Christ. Il est la pierre choisie par Dieu, pierre angulaire, et dit que celui, et Dieu l'a posé comme fondement, celui qui croit en lui, à coup sûr, ne sera pas confus. Ne sera pas confus. Alors, on peut regarder un petit peu de plus près ce passage. Le titre du message, c'est « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante ». Vous approchant de Christ, la pierre vivante. Pierre commence par donner ici, au verset 4, montrer aux croyants ce qu'il faut faire, mais en donnant une description un peu de Christ, en utilisant encore une métaphore. Alors, on avait la métaphore du lait la dernière fois, de la nourriture. Ici, c'est la métaphore de la pierre. Si vous regardez, au verset 4, il est question de pierre vivante. Verset 5 aussi. Au verset 6, il est question d'une pierre angulaire. Au verset 7, il est question de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Même verset, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc ici, on est vraiment dans une métaphore qui est complètement différente, qui n'est pas celle du lait que l'on désire, de la parole vers laquelle on court, mais de la pierre de construction, la pierre de fondement et les pierres de construction. Mais l'apôtre Pierre, lui-même, qui avait reçu ce nom hein, par Jésus, hein, rappelez-vous, hein, eh bien, montre à ces chrétiens, donne une description de Christ comme étant la pierre, une pierre sous laquelle, vers laquelle il faut venir. Donc, il décrit Christ comme une pierre, la pierre principale. Approchez-vous de lui, verset 4. Pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc, pour encourager le croyant qui s'approche de Dieu et a toujours s'approché de Christ, a toujours continué à le faire, Pierre donne de lui une description. Évidemment, quand on est tenté de s'éloigner de Christ, il va rappeler qui est Christ. Un petit peu à ses croyants. Donc, il en donne une description d'une manière particulière, mais une description de Christ. Il utilise donc l'image de la pierre, qui est une image qu'il emprunte de l'Ancien Testament. C'est pas quelque chose qu'il invente, c'est quelque chose qu'il emprunte de l'Ancien Testament. Vous l'avez vu à partir du verset 6, il dit « car l'Écriture dit », et là on trouve beaucoup de citations avec le mot « pierre ». Donc il va citer plusieurs fois, plusieurs textes même de l'Ancien Testament. Et il va, à travers cela, donner une estimation, montrer que l'Écriture elle-même fournit une estimation de Christ. Pierre établit une double estimation de Christ, à la fois par le monde et par Dieu. Regardez au verset 4, il dit « approchez-vous de lui, pierre vivante, mais rejetée par les hommes et choisie par Dieu. » Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc il établit une double estimation, on pourrait dire, de Christ, à la fois par les hommes, par le monde, et puis par Dieu. Il montre en même temps le caractère profondément scripturaire de ces deux estimations. Il cite, donc déjà au verset 4, le psaume 118, verset 22. Je vous lis le verset. Le psaume 118, verset 22 dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Donc Pierre, l'apôtre Pierre, avait certainement entendu Jésus utiliser ce même psaume en se l'attribuant à lui-même. Jésus l'avait utilisé, donc en Matthieu chapitre 21, verset 42, je vous laisse trouver Matthieu chapitre 21 et au verset 42. C'est dans la parabole des méchants vignerons, vous vous rappelez de cette parabole, dans laquelle il y a un maître qui confie sa vigne à des vignerons, et puis quand le moment est arrivé pour qu'il en récolte les fruits, il envoie ses serviteurs pour récupérer le fruit de cette vigne. Eh bien, que font les vignerons? Ils vont tuer les serviteurs que le maître envoie. Il envoie encore d'autres serviteurs, et puis il tue encore ses serviteurs. Et puis finalement, le maître se dit, ben, j'enverrai mon fils. Au moins, c'est mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Eh bien, le texte dit qu'il voit le fils arriver. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, mais voici le fils, tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Et Jésus pose la question, que fera le maître à ses vignerons? Et ses disciples lui répondent, bien, il fera périr misérablement ces misérables. Comme ça qu'ils le disent. Et Jésus dit donc au verset 42, à la suite de cela, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Et donc Jésus dit ici qu'en tant que bâtisseur, puis plus tard le texte dit, ils comprirent, les Juifs comprirent qu'il parlait d'eux, hein, que Jésus parlait d'eux en disant cela. Et donc, en tant que bâtisseur, les chefs d'Israël pouvaient décider de rejeter ou pas une pierre, on pourrait dire, hein. C'est une manière. Et cette pierre, mais ce que le texte nous dit ici, c'est que cette pierre qui est rejetée est devenue la principale de l'angle, celle sous laquelle toute la construction va reposer, celle qui va donner toutes les directions, le caractère même à toute la construction, la pierre indispensable, la pierre de fondement. Donc, il pouvait la jeter, mais celle-là, elle est devenue la pierre sur laquelle repose vraiment toute la construction. On peut penser à différentes applications hein, de ce texte, mais Jésus affirme que la véritable application de ce texte se trouve en lui-même. Il dit que ce passage du psaume 118, verset 22, parle de lui-même. Il est la pierre que les hommes ont rejetée. Par ceux qui bâtissaient la nation, on pourrait dire, hein, tous les chefs religieux qui cherchaient à construire, eh bien, ils ont rejeté Christ. Et le sens de rejeter ici, c'est celui de rejeter après avoir examiné, examiné, éprouvé, puis finalement rejeté. C'est pas juste rejeté sans avoir regardé. Donc il est en train de dire qu'ils ont examiné, ils ont regardé, ils ont tiré des conclusions et ils ont rejeté. C'est ainsi qu'il faut saisir les choses. Donc les Juifs ont examiné Jésus. Ils l'ont comparé à ce qu'ils lisaient dans l'Ancien Testament. Ils l'ont comparé à leurs attendus en tant que Messie. Ils ont sondé les Écritures, ils ont scruté les horizons pour voir si ce Messie arriverait. Et Jésus lui-même leur dit à un moment donné dans Jean chapitre 5 au verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais on sait qu'ils ne veulent pas venir à lui et qu'ils l'ont rejeté. Donc, ils ont aimé tout ce que l'on annonçait à propos de Jésus, mais ils ont rejeté Jésus. Ils ont aimé tout ce qui était dit à propos du Messie, mais ils ont rejeté le Messie quand il a été manifesté. Ils ont aimé tout ce qui concernait la prêtrise, les sacrifices, on voit comment ils étaient stricts sur toutes ces choses, et tous les rites. Ils ont conservé les symboles et ils ont rejeté la réalité que ces symboles annonçaient. Ils ont bâti en rejetant la pierre qui est devenue la principale de l'angle. Ils ont essayé de faire avec tout ce qu'ils trouvaient, mais en rejetant la pierre principale lorsqu'elle a été manifestée. Donc, l'apôtre Pierre va utiliser cette même vérité pour la mettre sous les yeux des chefs juifs lorsque, rappelez-vous, il avait, avec Jean, ils avaient rencontré ce boiteux à la porte du temple qu'ils avaient guéri. Et puis, il avait après cela annoncé la parole, ils ont été arrêtés et jugés devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin somme Pierre et Jean de dire par quelle autorité ils ont fait ces choses. Vous rappelez bien cela. Et en Actes chapitre 4, versets 9 à 11, je vous lis cela. Pierre dit, « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et puis il ajoute, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il applique cela à Jésus et il dit que vous êtes les bâtisseurs qui avez rejeté Jésus-Christ. Et donc la véritable valeur de cette pierre, on peut la voir ici, est établie d'après ce que Pierre dit ici concernant la résurrection de Christ. Hein. Il l'établit par la résurrection de Christ. L'expression ultime du rejet ici, c'est vous avez crucifié. Et l'expression, la manifestation ultime du choix de Dieu, c'est Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a choisi en le ressuscitant. Et donc, Pierre dit, il est évidemment la pierre qui est rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est choisie par Dieu, qui est devenue la principale pierre d'angle, celle sur laquelle tout tout repose. Et Christ a été vraiment, fait l'objet de cette double estimation. On peut le voir d'un côté rejeté et de l'autre côté choisi par Dieu. Et certainement, tous les croyants à qui Pierre écrit ici étaient sous cette tentation peut-être d'abandonner, de s'écarter, de s'éloigner. Et Pierre leur fait voir que même s'il y a des hommes qui rejettent Christ, n'oubliez pas qu'il est la pierre angulaire, qu'il est le choix de Dieu, qu'il est celui qui a été choisi, précieux aux yeux de Dieu. Pierre dit que ce qui compte, ce n'est pas l'estimation des hommes, mais c'est celle de Dieu. Christ est celui qui est choisi, précieux devant Dieu. Et Pierre a été le témoin de rappelez-vous, de cette manifestation spectaculaire concernant Jésus-Christ sur la montagne de la Transfiguration. Et plus tard, dans la deuxième épître, il écrit ceci en 2 Pierre 1, versets 17 à 18. Il dit que, en parlant de Christ, il dit « Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » D'accord ? Donc d'un côté, il dit « Oui, rejeté par les hommes, mais je puis vous dire qu'il a reçu de Dieu le témoignage qu'il est le bien-aimé, qu'il est le Messie, qu'il est celui que Dieu a choisi. » Il dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc l'Écriture affirme que le cœur naturel de l'homme n'a que du mépris et abandon pour Christ. Ésaïe 53 dit quoi, mépriser des hommes. Hein. C'est l'attitude naturelle du cœur. Il ne faut pas s'étonner parce que Jésus lui-même dit en Matthieu 21, 42, à la suite de ce que nous avons lu, quand il dit qu'il est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissent, il dit que c'est du Seigneur que cela est venu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi, rejetées par le cœur naturel de l'homme, mais choisies par Dieu. Et donc Pierre souligne vraiment cela pour ses croyants, afin qu'ils saisissent qu'ils ont, comme il dit un peu plus loin, il dit « L'honneur est pour vous qui croyez, vous ne serez pas confus, parce que même si Christ a été rejeté par des hommes, même s'il est encore aujourd'hui rejeté par des hommes, probablement Pierre avait en tête tout ce qu'il a vécu avec Jésus-Christ, mais tout ce qu'il a vécu aussi après, du rejet des hommes par rapport à Jésus-Christ, il leur dit « Il est celui qui a été choisi par Dieu, il est la pierre angulaire, et celui qui place en lui sa confiance ne sera jamais, jamais confus. » Les croyants et l'Église sont fondés sur Christ. Ce que l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et on voit à quel point cela est important. Donc ensuite, ce que Pierre montre ici, c'est vraiment l'exclusivité de Christ. Donc il décrit Christ par le fait que, on pourrait dire, il a été doublement estimé, rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Mais aussi que Christ, il montre l'exclusivité de Christ. Les versets 6 à 8, qui sont trois citations de l'Ancien Testament. Donc, nous allons regarder les versets 6 à 8 de 1 Pierre, chapitre 2, qui sont trois citations de l'Ancien Testament. Alors, il y a Ésaïe 28, verset 16, il y a le psaume 118, verset 22, et puis il y a Ésaïe, chapitre 8, et verset 14. Le contexte d'Ésaïe 28, verset 16, c'est celui d'un peuple qui est à la dérive. Donc, quand l'apôtre Pierre cite ici les versets 6, il dit « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Il cite ici Ésaïe, chapitre 28, et le verset 16. Et le contexte de ce passage en Ésaïe, c'est celui d'un peuple qui est vraiment à la dérive, ces dirigeants sont aussi, se sont aussi détournés de Dieu. Ils sont dans l'ivrognerie, dans la moquerie. Vous pouvez trouver cela bien décrit dans Ésaïe chapitre 28. Ils se moquent des messages, des messagers de Dieu, mais ils se moquent du prophète Ésaïe. Ils disent, ouais, c'est précepte sur précepte, blablabla sur blablabla, c'est un peu le sens ici, hein. C'est vraiment, c'est comme si on comprend pas ce qu'il dit, etc. Ils se moquent même du message du prophète et de Dieu. Et ils se vantent d'être en sécurité grâce aux alliances qu'ils ont contractées, particulièrement à l'alliance avec l'Égypte. Mais Dieu leur dit que leur sécurité n'est qu'illusion, car la seule sécurité, la vraie sécurité, se trouve être dans le fondement que lui, il a placé. Alors regardons un peu rapidement ce passage d'Ésaïe, chapitre 28, et nous allons lire à partir du verset 14. Ésaïe 28, à partir du verset 14. Ésaïe 28, verset 14. Écoute donc la parole de l'Éternel moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple, pardon, aux dirigeants de Jérusalem, vous dites, nous avons fait alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. C'est-à-dire que voilà, on ne risque rien de leur part. On est en bon terme avec eux parce qu'ils ont fait alliance avec des peuples qui vont les délivrer. Et donc, voilà quel est le fond de leur pensée. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, précieuse ou de prix, solidement posée, et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Pierre avait dit, celui qui la prendra pour appui ne sera point confus, mais c'est exactement le même sens. L'apôtre Paul cite aussi Ésaïe, chapitre 28, verset 16, en Romains, chapitre 9, verset 33, où il oppose les Juifs et les païens dans leur recherche de la justification. C'est un texte très intéressant que je vous invite à lire, Romains, chapitre 9, ici, Romains, chapitre 9, et au verset, on peut lire à partir du verset 30, je crois, Romains chapitre 9. Il dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Verset 32. Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon ce qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Mais il la présente du côté un peu négatif, hein. Ici, il parle de l'aspect plutôt, qu'on va voir après, négatif ici. Hein. Mais il dit, n'empêche, pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas obtenu cette justification? Parce qu'ils l'ont cherché, non pas comme Dieu a prévu, non pas par le choix que Dieu a fait de placer une pierre sur laquelle il faut s'appuyer, il faut croire, en laquelle il faut croire, mais parce qu'ils l'ont cherché, il dit, par leurs œuvres, par leurs propres œuvres, ici. Ils n'ont pas placé leur confiance dans l'unique, l'exclusif moyen, Christ est exclusif, c'est ce qu'on veut voir ici, moyen que Dieu a choisi. L'apôtre Pierre fait exactement la même chose devant le Sanhédrin. Je reprends encore le même texte qu'on a eu tout à l'heure en acte 4. Quand il leur dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Tout de suite après, il ajoute, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, il montre que cette citation établit l'exclusivité de Christ aussi en matière de salut. Quand il dit Christ est la pierre angulaire, il dit quelque part que il n'y a de salut en aucun autre. C'est pas une pierre parmi d'autres, c'est la pierre choisie par Dieu. Et à moins de placer sa confiance en elle, il n'y a absolument aucun moyen de salut. C'est le lien qu'il établit. Ici, un double lien, on pourrait dire, hein, où il montre aux Juifs que vous êtes les bâtisseurs qui avez rejeté la pierre que Dieu a choisie, mais cette pierre est l'unique, exclusif moyen de salut. Donc, Pierre montre dans ce, à ces chrétiens à qui il écrit aussi, l'exclusivité du salut en Jésus-Christ. Mais il montre aussi le double effet, je sais pas comment il faudrait le dire, mais le double effet de Christ, ou le double effet de la pierre, hein, qu'est Christ. Dans la citation, il est clair que Pierre montre qu'il y a un effet de bénédiction, aussi un effet de malédiction qui est produite par cette pierre. Cette pierre peut servir d'appui ou être une pierre d'achoppement. Et quand Paul en parle, vous voyez, il l'a présenté comme une pierre d'achoppement. Rappelez-vous le passage que nous avons lu dans Romains. Il dit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et en même temps, Pierre souligne que c'est la pierre, le fondement sur lequel on peut s'appuyer et dans lequel on peut croire pour être sauvé. Dans le verset 7, regardez le verset 7 de 2 Pierre, de 1 Pierre chapitre, je vous fais vous promener un peu dans la Bible, mais on revient à 1 Pierre chapitre 2 et au verset 7, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc il dit qu'il y a un double effet que va produire cette pierre. Ou ça va être une pierre de salut, ou ça va être une pierre qui fait trébucher, une pierre de scandale. Et il cite Ésaïe chapitre 8, versets 14 à 16, que je lis ici pour vous. Il dit, Ésaïe chapitre, comme le temps que vous cherchez, je vais chercher, Ésaïe chapitre 8, versets 14 à 16, il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter, il sera un sanctuaire, mais aussi, et en même temps on pourrait dire, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Donc il dit que Christ est à la fois un rocher de salut et un rocher de scandale. Il est à la fois les deux. Et Esaïe dit que Dieu dit, je pose une pierre précieuse choisie, celui qui se confie en elle ne sera point confus. Et Ésaïe 8 dit que c'est aussi une pierre d'achoppement. Celui qui ne croit pas en elle, il sera confus. Il sera confus. Donc la pierre a ici un double effet. Et le Seigneur Jésus souligne exactement la même chose dans le texte que nous avons déjà lu concernant les vignerons. Je vous le lis, hein, dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Lorsque Jésus a dit au verset 42, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, il ajoute, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, verset 43, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc, ce double effet, je sais pas comment il faudrait dire ça, mais de cette pierre. Le rocher de salut pour ceux qui croient, mais le rocher de scandale pour ceux qui n'ont pas cru à la parole. C'est exactement ce que Pierre dit, je vous relis au verset 7. Il dit, l'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et il ajoute au verset 8, ils s'y heurtent, voilà la raison pour laquelle ils s'y heurtent, pour n'avoir pas cru à la parole. C'est la deuxième raison qu'il donne aussi. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est-à-dire que Dieu l'a voulu aussi ainsi. C'est ce qu'il dit ici clairement. Et donc l'apôtre Pierre souligne que c'est la foi en Christ qui fait que cette pierre est une pierre de salut, on pourrait dire, ou un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. La raison de cet achoppement, c'est l'incrédulité concernant Christ. Et donc, il encourage les croyants auxquels il écrit, il dit, ne soyez pas dans la confusion. Jésus est rejeté par les hommes, certes, c'est vrai, mais il a été choisi par Dieu. Jésus est le seul chemin, le seul moyen de salut. Puis il dit, et face à Christ, il n'y a que deux états dans lesquels on peut se retrouver. Soit on est trouvé confiant en lui, sauvé, soit, eh bien, il est pour celui qui ne croit pas une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et ils seront brisés pour ne pas avoir cru en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point que je voudrais souligner ici, c'est que Pierre décrit d'une certaine manière Christ comme la pierre principale aux yeux des croyants à qui il écrit, et aussi à nos yeux. Juste le deuxième point que je voudrais souligner, il leur dit maintenant que l'activité continuelle du croyant doit être alors de s'approcher de Christ. Puisque Christ est ainsi, eh bien l'activité du croyant doit être de continuellement s'approcher de Christ. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dans la difficulté, on a dit, la tendance, c'est toujours de s'éloigner. Et Pierre dit, non, le croyant doit continuellement s'approcher de Christ. Et en s'approchant, eh bien, il dit ici ce qui se produit lorsque le croyant s'approche continuellement de Christ. Donc, le sens du mot, c'est le fait de s'approcher de manière à demeurer vraiment auprès de Christ et de s'approcher toujours et toujours davantage de Christ. Alors, comment on s'approche de Christ? Eh bien, comme on l'a vu ici tout à l'heure, en croyant en ce qu'il dit, en croyant à sa parole, c'est en lui faisant pleinement confiance jour après jour. Et donc l'invitation ici, c'est celui qu'on trouve ailleurs de continuer à s'approcher. Et il dit, en s'approchant, le chrétien partage la vie de Christ. En s'approchant, le chrétien partage la vie de Christ. Verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes. Vous voyez, Christ est décrit comme la pierre vivante. Et les croyants sont décrits comme des pierres vivantes. Alors c'est une métaphore un peu bizarre parce que, par définition, une pierre, ça n'est pas vivant. Si on veut symboliser quelque chose qui n'est pas du tout vivant, on prendra une pierre. Hein, c'est dur comme une pierre. Jésus, Dieu même a dit, je changerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Hein, on peut parler de plantes, on peut parler des êtres humains, des animaux pour parler de la vie, mais jamais de pierre. Et quand on parle d'arbres qui sont morts complètement, parfois on dit qu'ils sont pétrifiés. Mais néanmoins ici, l'apôtre Pierre emploie cette image, l'apôtre Pierre associe le terme de vivant, comme il le fait un peu ailleurs, à Christ, qui est cette pierre de construction fondamentale pour montrer que, pour faire référence probablement au fait que Christ, il est vivant, hein. Il parle de la résurrection de Christ et que les chrétiens, en s'approchant de Christ, eh bien, partagent aussi, ils sont des pierres qui sont vivantes et qui partagent la vie de Christ. Le croyant devient une pierre vivante en s'approchant de la pierre vivante. La vie de Christ est partagée par lui. Comme l'apôtre Paul le dit, quand il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc les chrétiens sont transformés progressivement ce que Christ est. Christ est la pierre vivante et les chrétiens deviennent aussi des pierres vivantes. Mais ils partagent la vie de Christ en s'approchant de lui, mais aussi en s'approchant de Christ, ils sont édifiés en un temple. C'est ce qu'on voit ici. Donc, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, c'est pas le croyant lui-même qui s'édifie tout seul pour pouvoir devenir une maison spirituelle, mais il dit, en vous approchant de Christ, vous êtes des pierres vivantes qui êtes en même temps édifiées en une maison spirituelle. Ici. Et Pierre souligne donc que les chrétiens qui s'approchent sont constitués comme en une construction non pas figée, mais en une construction vivante et spirituelle. Il ne dit pas qu'ils sont immatériels, hein, parce que ce sont des êtres vivants, on a des corps, ce sont des chrétiens, etc. Mais la maison est une maison spirituelle. Ce n'est pas une maison faite de pierres inertes, c'est une maison faite avec des pierres vivante, une construction faite avec des pierres vivantes. Un temple fait avec des pierres vivantes. La maison est utilisée pour décrire toujours la maison de Dieu. Pas la maison du croyant, mais la maison de Dieu. Et Pierre a sans doute à l'esprit le fait que Dieu réside dans un temple, n'est-ce pas ? Et que les chrétiens constituent la maison, ensemble, la maison dans laquelle Dieu réside. L'apôtre Paul disait à Timothée, si il lui donne des indications dans 1 Timothée chapitre 3, il lui parle de l'Église comme la maison de Dieu. Rappelez-vous, il disait, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Hein. L'Église est considérée comme la maison de Dieu. Donc, quand il dit, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, il parle ici de l'Église. Hein. Il ne parle pas du chrétien tout seul, d'accord, qui est la maison spirituelle, mais il parle du chrétien comme des pierres constructives qui sont posées sur la pierre d'angle principale qui est Jésus-Christ et qui sont érigées en un temple, en une maison spirituelle. Et les chrétiens sont ces pierres vivantes. Éphésiens 2, versets 19 à 22, je vous lis ce que l'apôtre Paul donne comme image de l'Église. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et vous avez été édifiés, c'est la même expression, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, et en lui, tout l'édifice, il dit, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, et vous, en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Encore, c'est un peu vraiment, un peu plus détaillé que ce que Pierre dit ici, mais il parle de ce fondement des apôtres, des prophètes. Bien sûr, ça veut dire que la parole prophétique et apostolique est d'une importance capitale dans cette construction. Elle repose sur Christ, qui est lui-même la pierre angulaire. Les croyants qui ont reçu l'esprit de Christ, c'est pour ça qu'ils sont des pierres vivantes, et que la construction est une construction, une maison spirituelle. Eh bien, ils sont érigés, il dit, et en lui, vous êtes édifiés, en Christ, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, faut pas avoir dans la tête une image de quelque chose qui est figé avec une dimension fixe, hein, un temple, ici, mais quelque chose qui est vivant, un organisme vivant, hein, un corps, plus l'image du corps ici, et dans lequel Dieu habite et dans lequel l'Esprit de Dieu Dieu habite dans chaque partie, dans chaque élément, dans chaque pierre, l'Esprit de Dieu y habite. Donc on retrouve bien ici la notion de la maison spirituelle que Pierre utilise. Mais c'est une maison spirituelle qui est construite progressivement aussi, hein, et puis collectivement. Ici, ce que Pierre dit ne concerne pas simplement le croyant individuel tout seul, mais le croyant en tant que les croyants rassemblés, l'Église, hein, ce que Dieu fait lorsque les croyants se rapprochent de Christ, ce que Dieu est en train de construire. Il décrit quelque part le temple, l'Église de Dieu. Donc en s'approchant, on a dit que le croyant partage la vie de Christ. En s'approchant, le croyant est édifié en une maison spirituelle, mais en s'approchant de Christ, les croyants deviennent aussi une sainte prêtrise. Ils deviennent des prêtres, c'est ce qu'il dit. Il dit un saint sacerdoce, verset 5, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et là, Pierre mélange un peu les métaphores, c'est un peu difficile. Hein. Il dit d'une part, vous êtes des pierres qui constructives, hein, qui est édifiées sur le fondement, et en même temps, il dit vous êtes des prêtres qui offrez des sacrifices dans la maison. Donc, c'est vrai que si on essaye de garder une image figée dans notre tête, on n'y arrive pas. Hein. Mais on est à la fois, les croyants sont à la fois l'Église, le corps de Christ, les pierres vivantes que Dieu utilise pour la construction, mais en même temps, ils sont des sacrificateurs qui offrent des sacrifices spirituels. Pas des sacrifices d'animaux, mais des sacrifices spirituels. Et bien que spirituels, les choses n'en demeurent pas moins réelles ici. Hein, ces choses ne sont pas immatérielles, elles sont vraiment réelles. Ce sont des pierres vivantes, ce sont bel et bien des personnes, les pierres vivantes. Et il faut saisir ici que Pierre décrit vraiment tout ce qui se passe sous l'action de l'Esprit dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église. Donc les sacrifices, le croyant, je reprends, en s'approchant de Christ, il partage la vie de Christ, en s'approchant de Christ, eh bien, il est édifié en une maison spirituelle, et en s'approchant de Christ, eh bien, il devient une sainte prêtrise, c'est-à-dire il est un véritable adorateur. Il va offrir des sacrifices. Et quels sont les sacrifices qui sont offerts? Je vais terminer avec cela. Quels sont les sacrifices qui sont offerts? Alors, Pierre ne donne pas ici d'exemple, mais on a ailleurs dans l'Écriture des endroits où il est dit que nous devons offrir des sacrifices. Dans Romains chapitre 12, verset 1, par exemple, il est question du sacrifice de consécration. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. » Et donc le corps tout entier est un sacrifice que l'on offre, qui est un sacrifice spirituel que l'on offre à Dieu. L'être tout entier, hein, le corps, les yeux, la main, les pieds, donc avec ce que je regarde, on n'a pas le temps de développer les applications ici, mais vous comprenez, tout ce que l'on peut faire avec le corps doit être offert à Dieu. Et puis, ailleurs, en Hébreux chapitre 13, verset 15, on trouve les sacrifices de louange. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire le fait de chanter, par exemple. C'est offrir à Dieu un sacrifice de louange, de témoigner avec ses lèvres. Ce qu'il dit, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Parfois, on peut être dans les églises où on dit « j'aime pas chanter ». On chante pas. J'aime bien écouter les cantiques, mais je n'aime pas chanter. Seulement, l'Écriture nous commande de chanter. Dieu, on l'a vu tout à l'heure dans des chants ici qu'il était écrit « chanter hein, », on doit chanter. Chanter est un ordre que Dieu nous donne. Comme je le dis souvent, il n'y a jamais d'ordre pour écouter la musique. On ne trouve pas cet ordre-là dans l'Écriture, mais on trouve chanter. Même et à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ici, Hébreux dit que le fruit de lèvres qui confesse le nom de Christ est un sacrifice qui est agréable à Dieu, un sacrifice de louange qui est agréable à Dieu. Et puis, dans ce même chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, verset d'après, les sacrifices financiers sont des sacrifices spirituels aussi, qui sont agréables à Dieu. N'oubliez pas, je lis, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et l'apôtre Paul, rappelez-vous, lorsqu'il avait reçu le don de la part des Philippiens, il avait dit qu'il a reçu cela comme un sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Et donc, le fait d'offrir, de donner, de participer à la dîme, donner sa dîme et ses offrandes, eh bien, c'est un sacrifice qui, spirituel, qui est aussi agréable à Dieu. Et on pourrait rajouter encore beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres domaines où nous avons des choses à faire. Donc, questionnons-nous sur notre manière de donner, par exemple, hein, ou sur ce que nous donnons, hein, et ça, en pensant que c'est un
Dieu regarde ces choses comme un sacrifice spirituel. Et il doit être de bonne odeur et agréable à Dieu, c'est-à-dire fait conformément à la volonté de Dieu. Et puis Pierre dit que ce sont des sacrifices agréables à Dieu, mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. On ne peut rien offrir à Dieu autrement que par Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire, le fondement sur lequel tout repose, mais il est celui par lequel on s'approche de Dieu, il est celui par lequel on sert Dieu. Il n'y a aucune possibilité d'être agréable à Dieu en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que l'apôtre souligne ici. Juste, je voudrais conclure en disant que s'approcher continuellement de Christ, c'est continuer à croire dans tout ce que dit la parole de Dieu. On s'approche par la foi, continuellement, mais en croyant continuellement à ce que la parole de Dieu dit. Pierre dit, pour vous qui croyez, pour vous qui continuez à croire, pour vous qui continuez à vous approcher en croyant, pour être édifié en une maison spirituelle, pour offrir des sacrifices, eh bien il dit, pour vous, eh bien c'est tout honneur. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Donc, s'approcher continuellement de Christ, c'est continuer à croire dans tout ce que dit la parole. Tout, même si les hommes mettent en doute les vérités de la parole de Dieu. Ce qui compte, deuxièmement, c'est l'estimation de Dieu, chers frères et sœurs. On est aujourd'hui dans un tournant où beaucoup de gens ont beaucoup d'idées sur tout, hein, même sur Christ. Même sur l'Église, même sur la religion. Et on entend beaucoup, beaucoup de choses. Et l'homme se prononce sur toutes ces choses. Nous devons saisir que c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. C'est ce que Pierre souligne. Il dit, les hommes ont rejeté Christ. Il aurait pu dire, les hommes l'ont rejeté. Mais il dit, les hommes l'ont rejeté, mais Dieu l'a choisi. Et Dieu l'a placé. Et c'est l'estimation de Dieu qui l'emporte sur toute autre estimation. La parole de Dieu est la vérité, et il dit que Christ est le chemin, et Christ est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il en sera exactement comme Dieu dit dans sa parole. Il dit dans sa parole que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Il en sera exactement ainsi. Crois qu'en pensent les hommes. Même s'ils disent, oh, mais Dieu est amour, Dieu ne permettra jamais que de telles choses arrivent. Peu importe ce que les hommes disent, il en sera exactement comme Dieu dit. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment point. Donc ce qui compte, c'est l'estimation de Dieu. Et puis troisièmement, je voudrais dire une chose. Il nous faut résister à la tentation de rendre Christ plus attractif. On peut parfois être tenté de dire, puisque les hommes rejettent Christ, peut-être je ne voudrais pas présenter comme l'Évangile le présente, trop tranchant peut-être, hein, parlant de la croix, parlant de l'enfer, parlant du jugement à venir, etc. On peut essayer de voir comment on peut présenter les choses sous un angle un peu plus acceptable, un peu plus attractif, pour que les gens puissent le dire. J'ai tellement envie que les gens le désirent, alors je vais le présenter sous un jour... Comment je vais dire ça? Un beau jour, hein? Mais si je présente Christ autrement que comme il est présenté dans l'Écriture, je ne présente pas Christ. Et Christ n'a pas cherché à se présenter autrement que ce qu'il était à tous les gens auprès desquels il s'est exprimé. Les gens venaient et puis s'en allaient, ils disaient cette parole est trop dure, qui peut l'écouter, et puis s'en allaient. Mais il se présentait tel qu'il était véritablement. Les apôtres ont présenté Christ tel qu'il est véritablement. L'Évangile nous présente Christ tel qu'il est véritablement. Et il ne nous appartient pas, pour aucune raison, de chercher à présenter Christ sous un jour qui nous semble meilleur. Il y a des gens qui disent, le monde présent ne comprend pas ce qu'on appelle l'enfer, la croix. C'est des mots qui n'ont pas de résonance pour eux. Donc, plutôt que de parler de ces choses, on va commencer par les intégrer à l'Église, parler du fait que Christ donne un sens à la vie, etc. Et puis qu'on est bien avec lui et tout. Et puis, une fois qu'ils ont été un peu, acclimatés, eh bien, on pourra présenter vraiment les vérités. Mais si je présente Christ autrement que ce qu'il est, ce n'est pas Christ. Il dit qu'il y a un seul chemin. Si je dis que, bon, peut-être que je ne présente pas Christ. Donc, il nous faut être attentif à cela et résister à cette tentation que l'on peut avoir, peut-être consciemment ou inconsciemment, de présenter Christ autrement que ce qu'il est. Il est la pierre angulaire, choisie et précieuse devant Dieu. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que c'est toi qui es venu jusqu'à nous. Nous te prions que tu nous donnes une pleine confiance en toi, une foi continuelle, que nous nous approchions chaque jour davantage de ta parole dans la foi, dans la soumission. Et nous te louons pour l'œuvre que tu accomplis dans ceux qui placent leur confiance en toi. Tu fais de nous des pierres vivantes, tu nous édifies en une maison spirituelle, tu nous rends capables de t'offrir des sacrifices spirituels qui te sont agréables par Jésus-Christ. Nous te louons pour ces choses et nous te prions que tu nous gardes vraiment dans ta vérité et dans ta parole. Nous te prions pour ceux et celles qui sont ici qui ne te connaissent pas, afin que tu les attires à toi. Dans ta grâce et par ta puissance souveraine. Amen.